Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio, la radio des Hautes-Garonne. Et on est ravis de vous retrouver en ce premier jour de printemps. Voilà, en rappelant que notre journal d'information locale et culturelle, eh bien, c'est tous les jours du lundi au vendredi, en direct à midi, rediffusé à 15h et 18h. On appellera juste avant d'annoncer le sommaire, sans j'insiste là-dessus, ce sont des prérogatives que l'on respecte, voilà, de l'ARCOM de sigler régulièrement la radio. Ça permet de vous annoncer ou réannoncer. Comment nous suivre? Donc la bande FM, le 91.3 dans quasiment tout le département de la Gironde. Depuis le mois de juillet 1997, vous pouvez nous suivre via notre site odoradio.fr qui vous permet notamment de pouvoir venir entendre, voire télécharger toutes nos émissions. Service gratuit, très intuitif. Franchement, 2 clics, 3 maximum. Allez, je vous l'accorde. Et troisième moyen de nous suivre, c'est ce fameux acronyme que vous voyez accroché à la plupart des radios, le DAB ou DAB+. Je vous laisse vraiment prononcer comme vous voulez. C'est la radio numérique terrestre. Voilà. Et là, sur la zone, il y a toujours une zone, bien sûr, à respecter. Eh bien, c'est la métropole bordelaise. Voilà pour les moyens de nous suivre. Allez, le sommaire de ce journal en ce vendredi 20 mars, c'est Hugo qui va nous donner quelques brèves d'infos d'ici quelques instants pour ouvrir ce journal. On va retrouver juste en suivant Morgane et Neil. Voilà, on va parler des portes ouvertes des châteaux de la Presqu'île, 5e édition, les 28 et 29 mars prochain. Voilà, on va communiquer, pourquoi organiser. 13 châteaux vont ouvrir leurs portes. On en parlera avec force détail avec nos invités du jour, bien sûr. Pour la partie musicale, bien haut de radio, partenaire de beaucoup de concerts et de soirées, et notamment ce vendredi et au Mascaré au Bousca, à l'occasion de la Saint-Patrick. Voilà, il y aura un concert avec les groupes JSG et Steel Rock et JSG avant de pouvoir écouter des extraits du troisième album. Il arrive, on écoutera un extrait de l'album précédent. Et comme tous les vendredis, on va retrouver notre magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cessot. Et aujourd'hui, la thématique abordée va être valeur juridique du droit au logement opposée à celle du droit de propriété. Voilà, je pense avoir à peu près été complet. Et tout de suite, donc, pour ouvrir ce journal, c'est Hugo qui va nous décliner quelques brèves d'infos. Bonjour Hugo.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Commençons ces quelques brèves avec la Semaine nationale de la petite enfance. Aujourd'hui, de 16h à 18h au château Séguinot, un espace de jeu pour les parents et les enfants sera disponible. Une bonne opportunité pour les parents de faire de nouvelles connaissances, mais aussi pour les enfants de potentiellement se faire leurs premiers amis. La participation est gratuite et sans inscription. Toujours à Bassens, un loto est organisé par le club de foot du CMOB au gymnase Séguinot. À partir de 18h30, l'activité ouverte à tous sans inscription commencera. Si, comme toujours, les lots à gagner sont ce qui intéresse, il est important de rappeler que cela soutient le club, quelque chose de capital puisque les mesures prises et les subventions mises en place avant les JO de Paris n'existent étrangement plus. Partons à Florac à présent, toujours ce vendredi, mais à 20h30, cette fois au domaine de la Burte. L'association Sistude Nature organise une sortie pour aller découvrir et observer les hiboux. Comme cet animal vit de nuit, il est rare d'en croiser par hasard et c'est le bon moment pour en apprendre plus sur cette espèce. Si la participation est gratuite, il n'y a que 20 places pour réduire les nuisances potentielles pour les animaux. Si vous êtes intéressé, allez sur la page Eloasso de l'événement et prenez votre place. Direction Senon cette fois avec une action éducative. Ce samedi 21 mars à partir de 14h, la maison éco-citoyenne de Senon, La Source, réalise un atelier nommé La Fresque de l'eau. Sur 3 heures, elle expliquera le fonctionnement du cycle de l'eau, l'impact du réchauffement climatique sur les mers et les océans, ainsi que l'influence des activités humaines, quelque chose d'assez important à comprendre, et encore plus à l'heure du gouffre qu'il y a. Anthony Le Bougnac anime cet atelier gratuit pour lequel il faut s'inscrire. Enfin, même si la majorité des communes de l'agglomération bordelaise ont vu leur maire être élu au premier tour, il est important de rappeler que le second tour se déroule tout de même ce dimanche et qu'il est important de voter. Si vous n'êtes pas d'accord avec les candidats, votez blanc, mais évitez l'abstentionnisme autant que possible.
Allez, merci Hugo pour ces quelques brèves et on va accueillir comme il se doit nos invités du jour. Morgane, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Neil, bonjour, bienvenue également.
Bonjour.
Voilà, alors on va parler bien sûr de ces journées portes ouvertes des châteaux de la Presqu'île les 28 et 29 mars prochain. 5e édition, Morgane, on a eu le plaisir de vous avoir l'an dernier. Alors 13 châteaux, il ne faudra pas bien sûr oublier. Et ça, c'est un événement récurrent, je dis ça dans le bon sens du terme. L'intérêt, c'est à la fois de pouvoir médiatiser, d'informer. Ensemble, on est plus fort. Et chacun va vraiment ouvrir ses portes avec plein d'animations. Donc, c'est encore un bon moment pour tous les châteaux. Parce que là, vous allez parler de vos châteaux respectifs, mais de manière collégiale. C'est, c'est important, ces journées portes ouvertes.
Oui, c'est important, on y tient. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'on continue, malgré les difficultés du métier et du contexte économique.
Bien sûr.
Mais oui, c'est important pour nous de s'ouvrir au public, de continuer à communiquer sur ce qu'est notre métier et partager aussi les difficultés auxquelles on fait face. Et puis vendre du vin, quoi, toujours. Hein.
Ben c'est votre cœur de métier, bien sûr, c'est l'activité. Alors, 13 châteaux, ce qu'il faut souligner, voilà, c'est que c'est vraiment de manière collégiale. Hein. Là, c'est un beau programme. Alors, la date, je ne sais pas si, comment vous organisez, mais c'est peut-être d'une année sur l'autre, à peu près au même moment. Et là, on arrive à travailler ensemble pour la communication, pour avoir de beaux programmes. Le but, pour les visiteurs, les clients, voilà, on peut mettre tous les mots, c'est déjà de mettre en avant la richesse. Hein, on est un petit peu chauvin, hein, qui plus est. Alors, comment on s'organise en quelques mots quand on est 13 châteaux? Donc, on se fait des réunions pour voir chacun sa singularité par rapport à l'événement, et puis on met tout en œuvre voilà, pour médiatiser, communiquer. Donc, comment on s'organise dans les grandes lignes, ne me dites pas s'il y a 10 réunions, etc. Et de montrer cette force, bien sûr, tout le monde va de l'avant dans le même sens.
Effectivement. Bon, après, on en est à la cinquième édition, donc on commence à être un petit peu rodé.
Bien sûr.
On a nos tracteurs qui ont leurs habitudes. On a quelques réunions de préparation, de mise au point, mais cette année, on a même presque fini en avance par rapport à l'année dernière. Hein. Donc on commence à être pas mal. Je ne vais pas dire bon, mais pas mal. Hein.
Oui, après, on se comprend. Hein. C'est vrai que vous avez des activités. Moi, je me répète, mais souvent quand j'en parle, mais voilà, c'est plus qu'une passion. Donc je pense que le temps ne compte pas, mais on en prend toujours un petit peu pour harmoniser. Alors le but des portes ouvertes, bien sûr, c'est de vendre du vin, mais ça va être encore des bons moments, voilà, entre des marchés, de la musique, animations diverses, food truck. Alors, je pense que pour tous les châteaux, ça, c'est le fil rouge, hein, bien sûr. Après, vous, par exemple, on va citer tous les châteaux, bien sûr. Vous êtes là aujourd'hui, donc on va mettre peut-être en avant vos châteaux respectifs. Par exemple, Morgane, château au Grave de la Laurence, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, de manière générique, toutes ces animations, mais peut-être de manière plus précise.
Oui, alors nous, cette année, c'est simple, mais par contre, c'est un truc qui me fait très plaisir. C'est une amie qui s'installe cette année en production de plants potagers, fleurs, aromatiques, voilà. Et donc, ça s'appelle la ferme Graines de Lune. Et donc, Martiane sera là le samedi 28 mars et pour vendre ses plants et de quoi donner un peu de saveur et de couleur au printemps et à l'été qui arrive. Donc voilà, nous, c'est simple, mais ça me fait très plaisir de partager cet événement-là avec une autre agricultrice.
Oui, avec les mêmes valeurs, bien sûr.
C'est ça, voilà. Ouais, ouais.
Bon, simple et efficace.
Exactement.
Pardon, j'ai osé. Nil, 28-29 mars. En gros, c'est le château Hôtelas, je prononce bien ?
Tout à fait.
Voilà. À Saint-Louis, donc tous les deux voilà, de Saint-Louis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver de manière un petit peu plus précise, hein, façon de parler, Neil, chez vous, les 28 et 29 mars?
Alors, on va présenter nos cuvées, nos choses, les choses qui nous différencient, certains élevages. Et surtout, on va accueillir des amis pour des expositions sur la thématique de la bouteille, décoration de bouteille et autres.
Bon.
Le but vraiment de ces portes ouvertes, que ce soit au Hôtelas comme chez les autres confrères, c'est de remettre l'humain au centre du jeu, montrer aux gens que derrière des bouteilles, il y a des hommes, des femmes qui ont leur passion et qui veulent, via cet instant de convivialité, vous transmettre tout ça.
Voilà, puis c'est des moments importants, je présume, parce que là, c'est le contact avec le public, et puis c'est bien de partager cette passion-là. Bon, le but, bien sûr, c'est de vendre. Vous avez une activité économique, mais c'est comment des visiteurs, d'ailleurs, qu'on peut avoir chacun à ce moment-là, à peu près, hein, pour donner juste un ordre d'idée, parce que là, 10h-18h pour les amplitudes horaires.
Ouais, on a compté l'année dernière, on avait compté à peu près une centaine de passages sur chaque domaine. Donc on s'est dit qu'on partait sur entre 1000 et 2000 visiteurs sur tout le week-end, quoi.
Alors toute équipe, bien sûr, vos équipes respectives sont mobilisées. Vous êtes combien d'ailleurs chacun dans chaque château? Est-ce qu'il peut y avoir des personnes aussi? Parce qu'entre l'accueil, la dégustation, etc., faut avoir le sourire, ça je m'en doute pas pour ce partage-là. Donc vous êtes à peu près combien de personnes? C'est toute une équipe? La fouette partout, il y a du renfort.
Ouais, il y a du renfort.
Il y a l'entraide familiale hein, qui joue beaucoup sur ces instants-là.
Ça je m'en doutais un petit peu, hein, mais vous êtes du coup combien mobilisés? Après c'est juste pour donner un indicateur, hein, c'est pas le chiffre précis.
Oui, ben alors oui, du coup c'est vraiment la famille. Donc nous sur notre domaine, donc le château Graffe de la Laurence, on est donc mes grands-parents et moi trois, mon conjoint, mon petit frère, mon père, voilà.
Bon, même le petit frère.
Oui, tous ceux qui sont rodés.
Mais il y a une passion commune. Je sais pas c'est une transmission d'ailleurs. Enfin, quand je vous écoute, ça doit être certainement le cas. Il y a une transmission familiale souvent dans ce type d'activité. Parce que c'est la passion, c'est le terroir, c'est le local. Voilà, on vit toute l'année, voilà, la vigne, le vin, etc. Donc, transmission familiale forte.
C'est ça, oui. Et même si, mon frère, mon cousin, mon père ne travaillent pas sur l'exploitation, en fait, ils y tiennent. Et donc, ils connaissent déjà un petit peu, ils savent comment présenter le domaine, les vins. C'est ça qui est touchant aussi, c'est de voir que y a toute une famille derrière ces projets-là.
C'est l'humain, c'est le cœur, c'est vous ça. Qui au travers des différentes saisons, c'est un petit peu la même chose, du renfort, il y a toute une équipe, parce que là, il faut être partout. Après, vous avez les compétences, bien sûr.
Il faut être au feu.
Là, si je pose ces questions, c'est juste pour mettre en avant, bien sûr, tout cet engagement humain, ô combien important.
Complètement, il faut accueillir, présenter, commercer, et que chacun vive une expérience, du coup, chez nous.
Là, parce que là, il y a les journées portes ouvertes, mais je présume des moments comme cela, chacun, vous pouvez avoir d'autres événements, parce que l'accueil du public, c'est important, parce que là, je ne sais pas si on va avoir la typologie précise, mais parce qu'il doit y avoir les habitués, certainement, qui vont pouvoir prendre le temps, parce qu'entre les animations, il fera beau, je présume, vous avez tout commandé, y compris la météo.
C'est ce qu'on a commandé en premier.
Non, ça, c'est la blague qu'on a souvent, parce que, mais c'est pour conjurer le sort, vous me direz si ça a fonctionné. Donc je présume que sur les journées portes ouvertes, on peut avoir entre guillemets des curieux qui peuvent avoir cette passion et qui peuvent venir aussi en famille, même si c'est à la fois consommé avec modération et puis on ne va pas encourager les mineurs bien sûr à boire, mais on voit quand même un autre type de public qui peut venir.
Alors attention, on produit aussi des jus de raisin. Hein.
Oui, mais je m'en doutais qu'il allait y avoir. Mais on va l'aborder ça. Mais vous voyez, sur les personnes qui viennent, vous sentez comme cela qu'il y a d'autres personnes qui viennent. Des fois, ça peut être sans faire une étude, bien sûr, de marché. Mais ça peut être des curieux qui peuvent venir en famille. Et puis voilà, le but, c'est au travers des dégustations, bien sûr. Et puis là, je vois que vous avez pensé à tout le monde. Hein. Mais je m'en doutais, hein, vu qu'on a déjà reçu. Donc sur le type de personnes qui poussent les portes, hein, qui seront ouvertes. Donc, les 28 et 29 mars, sur le public, c'est des clients fidèles, c'est d'autres personnes. On arrive à voir tous ces bienfaits d'apport de nouvelles clientèles après coup.
Oui, mais il y a un peu de tout. Alors, c'est sûr qu'on revoit tous les ans un peu nos clients fidèles qui nous amènent la famille pour faire découvrir, faire partager.
Ah, c'est un autre temps que le simple contact client à vendeur, je l'ai dit.
Oui, absolument. Bon. Oui, c'est un véritable temps d'échange. On ouvre les portes de nos chais, les chais à barriques, c'est pas des zones qui sont tout le temps ouvertes.
Bien sûr.
Donc on prend bien plus le temps et puis c'est très familial. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent en bande, entre amis. Et puis, ce qui marche bien, en fait, c'est aussi l'intérêt des portes ouvertes. C'est que, en fait, c'est tout un circuit à faire sur les deux jours. Donc, quand on se retrouve sur une propriété, le viticulteur va nous indiquer qu'il y a le collègue pas très loin. C'est à droite, au bout du chemin. Et donc, ça tourne un peu comme ça. Et donc, des gens qui se retrouvent sur les propriétés, les unes après les autres... Surtout le week-end, quoi.
Voilà, c'est l'entraide de la solidarité entre vous. Alors, on est justement, là, vous avez abondé ma question. Donc, c'est vrai que c'est prévu pour accueillir tout en chacun, ambiance famille. Alors, pour les enfants, je sais que certains châteaux organisent des animations spécifiques pour les enfants. Alors, c'est pas de la garderie, bien sûr, c'est pas le but. Alors, parmi les produits, justement, parce qu'il faut en parler, donc jus de fruits.
Oui, tout à fait. Dans la diversification. diversification des exploitations, ben, on a la diversification du travail du raisin. Et on pense aux enfants, puisqu'on fait des jus de raisin, on est quelques-uns à proposer des produits pour les enfants, et pas que les enfants d'ailleurs.
Oui, à tout âge, on peut consommer, bien sûr.
À tout âge, et si on n'a pas envie de boire du vin un instant, bon, on peut boire un jus qui vient des
vignes. Oui, on n'empêche pas l'autre, bien sûr. Hein. Alors, 13 châteaux, ça serait peut-être bien de les citer. Hein. Donc là, vous représentez Neil et Morgane, bien sûr, vos châteaux respectifs. Mais on peut peut-être citer, après, ça peut être effectivement, là, on va suivre peut-être la hiérarchisation là, des outils de communication, donc par ville et les noms des châteaux, si vous voulez bien.
Oui, ok. Mais alors, donc il y a Ambarès et Lagrave, il y aura le château Péchaud. À Ambès, le château Sainte-Barbe. Et à Saint-Vincent-de-Paul, le domaine de la Vrie Têtue.
À Saint-Loubès, il y a beaucoup de confrères qui se joignent à nous, puisque nous avons Bois-Malo, château de Gobineau, château de Suette, les Graves de la Laurence de Morgane, Clos Péligon, la Coucharde, la Lande Saint-Jean et le Haut-Hélas.
Et après, sur Sainte-Eulalie, il y aura le château de Chelivette et Bassens, le château Muscadet.
Voilà, comme ça, on n'a oublié personne.
Hein. On a tous les tours.
13 châteaux. Alors, chacun peut-être mettre en avant vos productions respectives. Donc, Morgane, qu'est-ce qu'on peut retrouver chez vous, château au Grave de la Laurence à Saint-Loubès?
Alors, nous, on fait un peu toutes les couleurs, finalement. Donc, dans l'ordre, on fait un vin blanc de noir. Donc, c'est un blanc fait avec du raisin rouge. Ensuite, on a un rosé très classique et sympa pour l'été là, qui arrive. Un clairé indémodable que j'adore personnellement. Et ensuite, un petit rouge qui passe pas en barrique. Donc un rouge jeune à boire comme ça en apéro, simplement, entre amis. Et après, on a la réserve traditionnelle. Donc ça, c'est notre vin de garde, donc notre production principale. Un vin rouge de garde fin, élégant, une petite pépite qu'on vend sur plusieurs millésimes. Et après, on a notre gamme spéciale. Donc, c'est un assemblage de 6 cépages. Donc, c'est les 6 cépages rouges bordelais. Donc, on est une toute petite exploitation. On n'a que 2,5 hectares, mais on a quand même 6 cépages rouges. Donc, c'est pas mal. Et donc, voilà, c'est un vin de garde assez spécial, vu l'assemblage qu'il y a. Et donc, c'est aussi une gamme qu'on ne fait pas tous les ans, donc c'est vraiment un vin un peu spécial c'est une curiosité à découvrir et pour se faire plaisir.
Neil, un petit peu la même question.
Oula, moi il y a beaucoup. Hein.
Non mais on a le temps.
Je suis un peu fou, un peu pirate, je fais plein de choses.
J'adore comment vous le présentez.
Alors je vais travailler blanc, rosé, rouge, des bulles, des jus de raisin, un spiritueux, un brandy. Sur les blancs, comme Morgane, j'ai commencé en 2024 un blanc de noir, puisque j'avais subi le gel et perdu toute ma production de blanc. Donc, en avant, on a essayé, c'est un carton. Sur les blancs, on a une gamme de 3 vins sur les classiques, avec de la cuve, des œufs en grès, de la barrique, un joli rosé. Sur les rouges, de la même manière, cuve, barrique, jarre engrais, voilà, plein de choses qui détonnent.
Alors, on va un petit peu parler, là, vous avez parlé de gel à un moment donné, alors c'est vrai que vous êtes assujetti, le climat n'est pas forcément avec vous, la concurrence, après, je ne suis pas un spécialiste, bien sûr, je pense qu'en 2026, ce n'est pas toujours évident de pouvoir vivre de son exploitation, la concurrence, alors je sais qu'avec certains pays, il y a des taxes qui se sont rajoutées, donc comment on s'en sort? Il faut être encore meilleur, sans parler de surproduction, on vend différemment, là, je pose plein de questions, je ne suis pas un spécialiste bien sûr. Donc Morgane, comment on s'arrange de tout ça?
Alors nous déjà le contexte c'est que on a un peu la chance d'être une toute petite exploitation et j'ai l'impression que ça aujourd'hui c'est un peu une force en fait. Donc en fait on peut rebondir plus facilement que si on avait des hectares et des hectares à s'occuper. Et après je pense que oui, il faut être bon dans ce qu'on fait, il faut diversifier ça. sa production, proposer des nouvelles choses pour attirer la curiosité. Et après, nous, on fonctionne beaucoup avec de la vente en direct. On fait des salons toute l'année. Donc, c'est beaucoup de travail.
Donc, toujours au plus proche.
Voilà, c'est ça. Mais pouvoir défendre ses produits en direct.
Parce que vous savez bien en parler, vous pouvez discuter parce qu'il y a un jargon, mais après, voilà, c'est l'éveil des sens, etc. Donc, ça, c'est une des pistes pour vivre.
Ben oui, on essaye.
Le contact direct tout le temps. Donc, il y a un petit peu la même question, parce que c'est vrai quand vous parlez de quand il y a des années où il y a du gel, etc., bon, je pense que déjà, c'est un coup dur, bien sûr, mais je présume que c'est un petit peu comme Morgane et les autres châteaux, donc comment on s'y prend entre la conjoncture, pas toujours favorable, hein.
Alors, ben déjà, on essaie de pas baisser les bras, rester positif, au contact de nos amis et clients, leur sortir toujours des choses qui vont les allumer, voir des petites étincelles dans les yeux, des nouveautés, des créations, de la diversité. On est sur une culture pérenne qui est classique, sur laquelle les gens ont envie de voir un peu de nouveautés aussi.
Alors Morgane parlait de salon, etc., parce que pour vendre, il peut y avoir bien sûr plusieurs circuits, plusieurs réseaux, parce qu'après, c'est en ressources humaines. On a cette passion, mais après, on ne peut pas se dupliquer, mais multiplier. Donc, présent sur des salons, des marchés, comment on vend, quoi, en quelque sorte.
Alors moi, je travaille essentiellement en vente directe, l'accueil à la propriété, et surtout, je prends régulièrement mon petit camion pour monter sur Paris, faire des marchés de producteurs de pays. Voilà, toujours au plus près du consommateur. Et c'est là qu'on a le retour direct de nos produits.
Bon.
Et aussi, une autre piste aussi pour s'en sortir, et que pas mal de nos collègues font dans les portes ouvertes, là, c'est la diversification de production. Donc, c'est aussi se diversifier, faire de la viande de mouton, des œufs de poule, des légumes.
Du maraîchage.
Ouais. C'est ça. Donc, s'orienter vers d'autres types de production pour être plus résilient et pas avoir tous les œufs dans le même panier, si je peux me permettre.
Non, c'est bien pour la métaphore. On est bien. Alors, pour là, c'est vrai que chacun, bien sûr, a sa singularité. Hein, ça, c'est une banalité de le repréciser. Là, pour les portes ouvertes, donc les 13 châteaux, alors il y a une communication, bien sûr, collégiale. Alors, je vois sur les outils de communication, largement diffusés, QR code pour avoir toutes les infos. Et je résume chacun, avec vos châteaux respectifs, vous avez votre propre réseau, donc site internet, les réseaux.
Tout à fait. Site internet, Instagram, Facebook. Et nous avons communiqué sur l'Instagram des Châteaux de la Presqu'île. Vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur @ les Châteaux de la Presqu'île. Comme ça, vous verrez un peu le flyer et surtout beaucoup les informations de l'événement.
Là, il va nous rester une poignée de secondes, Morgane, pour conclure sur l'interview, bien sûr, parce qu'on souhaite d'avoir plein de monde sur ces journées, mais pas que, entre les ventes tout au long de l'année. Mais là, en ce qui concerne notre interview aujourd'hui, pour conclure, vous voulez revenir sur notre point ou développer Non, mais si on a à peu près tout dire.
Non, mais on vous attend nombreux. Ça fait plaisir de recevoir des gens, en fait, que vous y connaissiez en vain ou pas du tout. En fait, tout le monde est le bienvenu. Nous, c'est avec grand plaisir qu'on vous parle de notre métier et qu'on partage nos vins. Voilà, le but, c'est de passer un bon moment.
Neil, pareil, là, en conclusion de l'entretien, si vous voulez revenir sur un point ou aborder un autre sujet, comme vous voulez.
Eh bien, vous qui avez l'habitude de passer à côté de chez nous, ayez la curiosité de pousser les portes qui seront ouvertes. Donc vous n'allez même pas les pousser. Juste venez nous voir.
Je n'osais pas rebondir, mais j'entends bien. Écoutez, Morgane, Neil, merci pour l'enthousiasme. Là, on fait un petit coucou à tous les autres châteaux. Florence, avec qui on a organisé ces entretiens. Puis on vous souhaite qu'il y ait plein de monde pour la météo, c'est bon. Et puis l'amour de vos produits, la qualité. Bon, peut-être à l'an prochain ou sur d'autres événements, pourquoi pas.
Et surtout, au week-end prochain.
Voilà, 28 et 29 mars. Mais promis, on repartage tout sur les réseaux sociaux. Allez, regardez, oh, il nous reste, on est bon sur le timing. Voilà, on va se quitter en musique. Voilà, désolé, pas le temps de faire un agenda culturel. Voilà, on essaie chaque fois de faire au mieux. Et puis via nos différents réseaux, bien sûr, on communique. Voilà, toujours prioriser les invités. Voilà, ça, c'est important. Voilà, on va remercier juste avant de se quitter Nicolas, la régie technique. Merci à Hugo pour la présentation, réalisation des brèves. Voilà, Hugo qui est stagiaire avec nous, qui étudiant en école de journalisme. Voilà, un remerciement encore, bien sûr, pour Morgane et Neil. On reparlera de ces portes ouvertes des châteaux de la Presqu'île les 28 et 29 mars prochain, le week-end prochain. Voilà, dans quelques instants, vous allez retrouver notre magazine juridique et social Défendez-vous. Mais pour l'instant, présent, voilà, on va écouter JHG, un groupe du CRU, un groupe local, voilà, avec le titre One More. L'album, il arrive, hein, le troisième. Voilà, j'ai plus la date en tête, mais il arrive, Tant de couleurs arrive. Et là, ce soir, le groupe va partager la scène au Mascaré au Bousca, voilà, à partir de 18h30, à l'occasion de la Saint-Patrick. Et là, donc, on écoute un extrait du précédent album de JSG, Jérôme Solaire Group. Le titre, c'est « One More ».
Le magazine juridique et social, défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesso.
Bonjour, vous êtes bien sûr Audio Radio pour votre émission du vendredi midi, défendez-vous. Et cette semaine, je vais aborder la question du droit au logement opposé au droit de propriété sur une thématique plus juridique. Mais d'actualité, à la fois dans les soucis du quotidien d'un certain nombre de personnes, et d'actualité pour le cabinet, compte tenu d'un certain nombre de litiges qui me sont présentés sur cette problématique, et suite à une intervention pour l'Institut des droits de l'homme du barreau de Bordeaux. L'idée étant de déterminer quelle est la valeur du droit au logement dans notre droit actuel, éventuellement dessiner des tendances, et dans quelle mesure il s'oppose au droit de propriété. Ce qui est d'actualité au niveau social, compte tenu des difficultés de logement rencontrées par nombre de personnes dont on entend parler dans les médias d'ailleurs, puisque les prix de l'immobilier augmentent sous la pression de différents éléments, il est de plus en plus difficile de se loger, et lorsque l'on a une demande de logement social, il y a de longs mois, voire quelques années d'attente pour que cette demande soit satisfaite, période pendant laquelle certaines familles ou certaines personnes peuvent se retrouver en difficulté. Alors il y avait un numéro de courrier international du 12 février 2026 récent, donc, qui reprend la situation au niveau européen. Qui évoque aussi la situation en France, mais en notant qu'entre 2015 et 2025, les prix de l'immobilier ont bondi de 60% dans l'Union européenne en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels c'est plus, par exemple en Hongrie, 237%, 135% en République tchèque, et les loyers ont augmenté de 27% en moyenne dans toute l'Union européenne. En conséquence de quoi, l'âge moyen d'émancipation en Europe est de 26 ans, c'est-à-dire du départ des jeunes du domicile parental, et sachant que certains pays du sud de l'Europe, en Italie, Espagne ou Grèce, en général, c'est plutôt 30 ans. Le dernier rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés explique que 2025 a été encore une année très difficile, avec environ 350 000 personnes sans domicile fixe, ce qui est quand même très important, c'est-à-dire 20 000 de plus qu'en 2023, mais surtout deux fois plus qu'il y a 10 ans. Un recensement INSEE de 2020, donc qui n'est pas tout récent, mais qui est relativement tout de même, et qui reste d'actualité, fait ressortir qu'à Paris, par exemple, près d'un logement sur 5 est inoccupé, ce qui est quand même particulièrement important, surtout dans le contexte de pénurie de logements actuels. Donc un certain nombre de personnes ont des difficultés pour se loger, se reloger lorsqu'ils ont un habitat insalubre, etc. Alors, sans évoquer la question du droit au logement d'ALO et des procédures qui existent, donc qui permettent de se faire reconnaître prioritaire et de se faire attribuer un logement, que l'on pourra évoquer d'ailleurs dans une autre émission, là, la question était plus théorique, de voir par rapport à cette urgence sociale dans quelle mesure le droit au logement est reconnu juridiquement, et de le comparer à en valeur ou en poids juridique le droit de propriété. Alors c'est vrai que quand on remonte un peu dans l'histoire des termes droit au logement, on n'a pas remonté très loin, au contraire du droit de propriété où on peut remonter pour le code civil à 1804 avec un texte inchangé, mais pour le droit au logement, donc le droit de propriété on peut remonter avant évidemment, mais là pour prendre notre code actuel, donc pour le droit au logement, en fait on va commencer, c'est l'ère industrielle en fait qui va permettre à ce droit, à cette en tout cas idée de commencer à faire son chemin dans l'esprit du législateur, avec a priori une première loi que j'ai trouvée qui date d'avril 1950 sur l'assainissement des logements insalubres. La loi, donc déjà on en parlait, on continue et on continue à en parler, la loi définissait l'insalubrité et favorisait l'intervention des communes pour obliger les propriétaires à réaliser des travaux dans des cas graves. Mais déjà c'est une loi qui avait été d'application assez limitée. Mais on va commencer vraiment à parler de droit au logement à partir du début du XXe siècle principalement suivant les crises qui font suite aux deux guerres mondiales. Donc on a différents textes à la fois en droit international et en droit français qui évoquent le droit au logement. Par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme qui nous explique que toute personne a un droit à un niveau de vie suffisant pour assurer donc sa santé, son bien-être, ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, nous dit-on. La Charte sociale européenne nous dit que en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les parties s'engagent à prendre des mesures qui sont destinées à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant, prévenir et réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive, donc on n'y est pas encore, on a compris, et à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. Le problème, c'est que cette charte sociale européenne, n'a pas d'effet direct. Jugé à différentes reprises, notamment par la Cour de cassation en 2022, pas sur ces stipulations, mais sur à l'occasion de barème, l'occasion des barèmes Macron, qui nous avait fait en son temps un petit feuilleton dans l'émission, jusqu'à ce qu'il y ait le sujet qui soit régulier. Mais la Cour de cassation avait donc indiqué que pour avoir un effet direct, ça avait déjà été jugé au demeurant par le Conseil d'État auparavant, il y a un effet direct dès que les stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir, et que, eu égard à l'intention exprimée des parties à l'économie générale du traité invoqué, à son contenu et à ses termes, donc les stipulations du traité n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre États, et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. Bon, c'est-à-dire quand on voit que dans la Charte sociale européenne, l'article 31 nous dit qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les parties s'engagent, donc c'est-à-dire que les parties, ce sont les États, donc ce sont les États qui s'engagent à faire un certain nombre de choses. Bon, on comprend que cela n'aura pas d'effet direct. On peut préciser que également la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui sont des textes importants, mais pareil, n'a pas plus d'effet direct, et elle garantit le droit à une aide au logement, ce qui n'est peut-être pas exactement la même chose. Alors, on peut se reporter également à la Convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales, qui, elle, ne dit rien sur la question du droit au logement, mais qui va le traiter, mais on peut le traiter sous différents angles. Par exemple, sous l'angle du droit à un procès équitable, par exemple, lorsqu'il y a un défaut d'exécution d'une décision d'un tribunal en matière d'Allo justement, ou de l'article 3, c'est les traitements inhumains et dégradants. Par exemple, lorsqu'il y a des destructions de logements ou lorsqu'il y a un habitat impropre ou à l'habitation. Mais et surtout sous l'angle du respect du domicile, c'est-à-dire c'est l'article 8 de la Convention dont on parle souvent pour le droit au respect de la vie privée familiale, et on oublie souvent que en fait le petit 1 nous dit donc que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. D'ailleurs, c'est également mentionné. Mais donc de son domicile, et c'est sous cet angle-là que l'on peut aborder la question, étant précisé donc que, bien sûr, en matière de convention européenne et de droit de l'homme, le petit 2 précise qu'il peut y avoir une ingérence, mais que si elle est prévue par la loi, il ne constitue pas une mesure, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, aux protections des droits et libertés d'autrui. Donc voilà pour le droit international. En droit interne, on a une loi du 31 mai 1990 qui vise à la mise en œuvre du droit au logement, dont l'article 1er donc, nous dit garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation, mais qui est traduit ensuite de la manière suivante, c'est-à-dire que toute personne ou famille qui éprouve des difficultés particulières en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence a droit à une aide de la collectivité dans les conditions fixées par la loi pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, de services téléphoniques, etc. C'est surtout des déclarations d'intention. Alors il y a des gens qui ont posé la question au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité la compatibilité de l'article 544 du Code civil. Alors, l'article 544 du Code civil, c'est celui qui porte sur le droit de propriété et qui nous explique donc que la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. C'est un article qui date du Code civil et qui est en vigueur depuis le 21 mars 1804 et qui n'a pas été modifié. Ils se font de plus en plus rares, ceux-là. Beaucoup d'autres ont été modifiés. Certains ne le sont pas, ne l'ont pas été. Alors, donc, ils ont posé la question au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, de la compatibilité donc de cet article 544 à différents principes, notamment au droit au logement. Alors, je rappelle que la question prioritaire de constitutionnalité, qu'on appelle nous QPC, c'est la possibilité pour des parties dans un procès de saisir le Conseil constitutionnel par le filtre de la juridiction qui est saisie du litige et qui les oppose, de saisir le Conseil constitutionnel de la question de la constitutionnalité du texte qui leur est applicable. Auparavant, seul pouvait saisir le Conseil constitutionnel. Donc, on pouvait saisir le Conseil constitutionnel qu'avant la promulgation d'une loi. Et c'était pas les citoyens, c'était les députés, sénateurs, en nombre suffisant ou les présidents des assemblées, etc., on pouvait saisir, mais pas les simples particuliers, pour faire synthétique. Et donc là, la question prioritaire de constitutionnalité a permis aux plaideurs, disons, de saisir indirectement le Conseil constitutionnel, et ça a généré, c'était l'occasion d'un certain nombre d'émissions, un contentieux important et riche, en quantité et en qualité, et on a vu un certain nombre de lois, anciennes et moins anciennes, dont le Conseil constitutionnel considérait qu'elles étaient contraires à la Constitution. Bon, là, alors là, la question était de savoir dans quelle mesure le droit de propriété était compatible avec notamment le droit au logement, ce qui était expliqué que le caractère absolu du droit de propriété conduit à ce que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui soit considérée par les juridictions civiles comme un trouble manifestement illicite, permettant au propriétaire d'obtenir en référé l'expulsion des occupants, et que par ses conséquences sur la situation des personnes qui vivent dans des résidences mobiles, bon, c'était l'occasion du litige, la définition du droit de propriété porte une atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement. Ça, c'était ce qui était soutenu par les plaideurs. Et du coup, le Conseil constitutionnel va nous définir, bon, ou de quoi nous rappeler, mais là c'était l'occasion de le faire, définir, rappeler la portée juridique du droit au logement. Et il rappelle, en se fondant sur la Constitution de 1946, que celle-ci prévoit que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Alors, pour rappel, le Conseil constitutionnel va juger par rapport au bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire la Constitution de 1958, donc toutes les choses qui sont techniques, qui sont prévues par la Constitution, mais aussi par rapport au préambule, et qui renvoie lequel préambule de notre Constitution actuelle de 1958 renvoie donc notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aussi au préambule de la Constitution de 1946, qui est assez riche et qui va porter là sur des droits, on va dire plus sociaux. Tandis que ceux de 1789, qui étaient pris en réaction à l'ancien régime et à l'opacité juridique et à la toute-puissance de la monarchie, donc sous l'ancien régime, donc les droits de 1789 étaient plus des droits, on va dire, politique et de liberté, donc tandis que en 1946 on va s'inspirer aussi de droits sociaux et de notions plus émergentes. Bon, ça pour faire un petit aparté sur ce renvoi au préambule de la Constitution 1956, Constitution qui elle ne s'applique plus évidemment, et donc le Conseil rappelle également que la nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et le loisir, et que tout être humain qui, en raison de son âge, son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Donc on nous dit que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Très bien, donc on nous rappelle des principes à valeur constitutionnelle, et pour nous dire, donc dans le petit 5, qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle. Donc on a un certain nombre de principes qui sont établis par, qui ressortent de la Constitution, notamment du préambule de la Constitution de 1946, mais ça accouche d'un objectif de valeur constitutionnelle. La question étant, juridiquement, qu'est-ce qu'un objectif de valeur constitutionnelle, qu'on va appeler OVC. Donc l'objectif de valeur constitutionnelle, c'est une notion qui va permettre au Conseil constitutionnel de justifier les atteintes que le législateur va porter au droit de propriété, mais qu'on ne peut pas invoquer directement. C'est-à-dire que l'objectif de valeur constitutionnelle n'énonce pas un droit, mais un objectif que le législateur doit prendre en compte quand il légifère, et qui lui permet donc de justifier et d'autoriser certaines limites apportées par la loi à des normes constitutionnelles. Mais on ne peut pas l'invoquer, C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en servir dans le contentieux des questions prioritaires de constitutionnalité. Et a priori, le Conseil constitutionnel a refusé de trancher la question de principe de l'invocabilité de l'objectif de valeur constitutionnelle dans le contentieux des QPC, c'est-à-dire dans le contentieux des questions prioritaires de constitutionnalité, c'est-à-dire qu'en l'état, on ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur un objectif de valeur constitutionnelle. Par contre, dans le contentieux qui continue à exister en moins grand nombre mais qui continue à exister, qui est celui de la saisine du Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi, là, à ce moment-là ça peut être invoqué. Donc voilà ce qu'est en substance un objectif de valeur constitutionnelle. Alors évidemment, l'objectif de valeur constitutionnelle qu'on ne peut pas invoquer directement, mais il peut être un peu juridiquement faiblard par rapport au droit de propriété dont j'ai rappelé le caractère absolu en citant tout à l'heure l'article 544 du Code civil et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui nous dit dans son article 17 que la propriété tente un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est tout de même lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Bon, tout ça, ça c'était en réaction à l'ancien régime. Alors à noter tout de même qu'au niveau européen, je vous parlais tout à l'heure de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est de novembre 1950, elle ne protège pas en elle-même le droit de propriété. C'est-à-dire, si on va lire le texte de la Convention, le texte de la Convention ne prévoit pas le droit de propriété. Tout ça parce que il y avait eu de longues discussions et des conceptions différentes par les États au sein du Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir donc avec l'Union européenne, qui est l'organe au sein duquel a été établie la Convention. Et donc du coup, ça n'a pas été visé dans la Convention elle-même, mais dans un protocole. Alors c'est l'article premier du premier protocole additionnel de 1952, donc ça a été quand même assez vite, c'est la première chose dont on s'est occupé, et on nous dit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Bon. Et donc c'est l'occasion d'en revenir à ce que nous dit le Conseil d'État, donc, parce qu'il n'a pas encore répondu à la question. J'ai maintenu un peu de suspense. Le Conseil constitutionnel nous dit donc, oui, mais le droit au logement est un objectif valeur constitutionnelle. D'accord, mais je n'ai pas donné la réponse. Quand on l'oppose au droit de propriété, qu'est-ce qui se passe? Eh bien rien, puisqu'on nous dit que l'article 544, qui définit le droit de propriété, ne méconnaît pas, ne connaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Bon, évidemment, puisqu'on a vu que le droit de propriété est un droit sacré et inviolable, l'objectif de valeur constitutionnelle peut permettre de le limiter, mais ne permet pas de considérer que le droit de propriété soit en lui-même contraire à la Constitution, en tout cas que l'article 544 du Code civil. Bon, c'était un peu couru d'avance, mais pour autant, la question a été jugée d'inintérêt puisqu'elle est allée jusqu'au Conseil constitutionnel qui a donc répondu. Et du coup, ben, vous avez un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation en différentes matières d'ailleurs, en matière d'atteinte à la propriété et auquel on oppose le droit au logement ou le droit au domicile, va juger que l'on peut en référer, c'est-à-dire dans le cadre d'une procédure d'urgence, procéder à l'expulsion parce que on nous dit que l'expulsion ne saurait être disproportionnée et que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Alors là, ça concerne un certain nombre de situations, pas que celle auxquelles on va nécessairement penser de prime abord, qui est celle du squat, mais celle aussi de l'occupation. Par exemple, il y avait un dossier dans lequel des personnes se prévalaient de l'usucapion, c'est-à-dire de la possibilité d'acquérir la propriété par le temps qui passe, par la prescription. C'est-à-dire qu'ils avaient construit sur le terrain d'autrui, ils étaient restés pendant plus de 20 ans. Et donc sans que quiconque leur dise rien. Et donc la loi prévoit que ça, c'est une possibilité d'un mode d'acquisition de la propriété. La Cour de cassation a considéré, alors, bon, dans les cas d'espèce, que cette prescription n'était pas acquise, mais surtout qu'il y avait lieu de prononcer la destruction, en l'occurrence, et l'expulsion concernant des gens qui étaient quand même très âgés, malades et en difficulté. Donc voilà, alors après, bon, il nous reste finalement un peu de temps. J'en suis qu'à la moitié de ce que j'avais prévu de dire. Alors, quels sont les textes, quels sont les textes qui existent pour trouver des solutions sur le logement par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir au niveau du. Par rapport aux difficultés qu'il y a pour se loger et par rapport à la toute puissance du droit de propriété quand on a par exemple des logements qui sont inoccupés depuis des années, inutilisés, ou des logements d'ailleurs qui peuvent servir de placement immobilier. Il y a des droits de préemption pour construire des logements sociaux, il y a des possibilités de réquisition d'immeubles inoccupés, ça a été fait dans les années 90 sur la base d'un texte de 1945, et ça avait été fait aussi par le général de Gaulle en 47, qui à l'époque avait réquisitionné 88 000 logements. Donc maintenant c'est toujours prévu par les textes, il y a le code de construction et de l'habitation, un certain nombre de textes, mais bon, pour autant j'ai lu dans un article du Monde récent que le ministère de l'Intérieur n'avait pas été capable de donner les chiffres des réquisitions sur les dernières années, ce qui tendrait quand même à démontrer que a priori il ne doit pas y en avoir, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et il y a un certain nombre de textes législatifs qui se multiplient pour venir protéger le droit de propriété et en même temps des propositions de loi qui viennent donc des parlementaires qui sont dans les placards, je vais dire, et qui ont tendance à y rester, non soutenus par le gouvernement. L'idée d'un texte récent étant de transférer en fait aux communes, c'est-à-dire aux maires, le pouvoir que tient le préfet dans la réquisition des logements vacants. Puisque si la possibilité existe, c'est le préfet et donc le représentant de l'État dans le département que le pouvoir appartient. Tandis que là, le projet de loi viserait à ce que ce soit le maire qui est donc sans doute plus au fait des difficultés à ce titre-là de sa commune. Il y a des réticences un peu dans tous les sens sur ce sujet. Tout ça systématiquement en raison la protection accordée au droit de propriété, sans remettre en cause le droit de propriété. La question se pose lorsqu'on a clairement des logements qui sont inoccupés, de la possibilité de pouvoir les réquisitionner réellement, et qui quand on est dans une zone dans laquelle il y a une pénurie de logements, sachant que il y a des atteintes aux droits de propriété qui se font par exemple en droit de l'urbanisme ou par exemple en droit de l'environnement, cas échéant, mais qui permettent par exemple pour l'urbanisme, de contraindre à la rénovation de logements sous peine d'expropriation. Donc ce sont deux genres de textes qui existent déjà. Et que peut-être que face à des logements vacants, c'est ce genre d'option qui sera mise sur la table un jour avec de réelles applications des réquisitions. Surtout, notre temps est à peine dépassé et je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine. Au revoir.